Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'évolution constitue un concept central de la biologie qui est fondé à la fois sur l'étude des organismes du passé et sur l'étude de la diversité et des relations de parenté entre les organismes actuels. Les progrès rapides actuellement réalisés dans les sciences de la vie et en médecine, on vient de le voir, repose sur des principes dérivés de notre compréhension de l'évolution. Cette compréhension découle à la fois de l'étude des données toujours plus abondantes issues des fossiles et de façon tout aussi importante de l'application des techniques issues des sciences biologiques et moléculaires modernes à l'étude de l'évolution. On vient également d'en avoir une preuve remarquable. Eh bien, cette profession de foi enthousiaste en faveur des sciences de l'évolution et de leur importance fondamentale ouvre un récent document publié par l'Académie des sciences et l'Institut de médecine des États-Unis. Intitulé « La science, l'évolution et le créationnisme », cet ouvrage met l'accent par son titre sur certains paradoxes inquiétants qui interviennent en ce moment même dans notre société humaine en voie de mondialisation rapide. J'espère que la traduction française de ce document, particulièrement bienvenue en cette année consacrée au souvenir de Charles Darwin, sera très prochainement disponible sur les sites de l'Académie des sciences et du Collège de France. Alain Prochian m'a demandé de rappeler aujourd'hui les très grandes étapes historiques ayant conduit à notre connaissance et compréhension actuelle de l'évolution biologique. J'avais le choix. 2500 ans, s'il fallait prendre les présocratiques, 250 ans pour une approche classique, 25 ans pour me limiter à la post-synthèse Evo-Devo. J'ai fait une petite compote. Je passerai presque entièrement sous silence les considérations issues de l'Antiquité classique et du Moyen-Âge. En effet, les rapprochements que l'on peut tenter entre l'évolutionnisme tel que nous le concevons aujourd'hui et la pensée de certains philosophes antiques tels qu'Anaximandre de Milet, Empédocle d'Agrigente, Leucippe ou Démocrite demeurent, c'est le moins qu'on puisse dire, sujettes à caution. Retenons seulement que le concept d'un temps sagittal, par opposition au temps cyclique de maintes cosmogonies antiques, apparaît comme un prérequis intellectuel indispensable avant que toute idée d'évolution puisse émerger. De même, le rapprochement que l'on a voulu faire entre l'évolution, au sens moderne, et l'idée de la grande chaîne des êtres issus de Plotin est toléré au Moyen-Âge derrière l'autorité de quelques pères de l'Église, tels saint Augustin et saint Grégoire de Nice, n'a qu'une valeur très limitée. La grande chaîne des êtres correspond sans doute davantage aux soucis philosophiques d'un ordre et d'une complétude statique de la création qu'à une tentative de description naturaliste. Il ne faut pas confondre, en effet, l'idée d'une parenté idéale, analogue à celle que l'on décèle dans les productions de l'art, avec la parenté réelle entre organismes liée à une transformation historique concrète de ceux-ci. Les styles architecturaux ont une parenté, mais c'est dans l'esprit humain. De même, les productions de la nature peuvent avoir une parenté idéale dans le cadre éventuel d'une création divine, comme le pensait Linné, mais cela n'implique nullement que ces productions soient issues matériellement les unes des autres, pas plus que les arènes de Nîmes n'ont été directement enfantées par le Colisée de Rome, selon le mot de Paul Ostoïa. Certes, on pourrait penser que l'idée d'une succession logique des espèces au long de la chaîne des êtres, dans un ordre de complexité et de perfection croissant, si bien exprimé par Leibniz, a pu préparer les esprits à concevoir une filiation réelle une fois les schémas idéalistes dépassés. Mais cette transition a duré des siècles en Occident. Laissons donc passer les siècles. En révérence toutefois à la création de notre Collège de France, je ne voudrais retenir ici de la Renaissance qu'un seul épisode. En 1555, Pierre Belon du Mans osa dresser pour la première fois côte à côte, ça sentait le fagot à l'époque, le squelette d'un homme et celui d'un oiseau, faisant que les lettres d'Icelle se rapporteront à celle-ci pour faire apparaître combien l'affinité est grande des uns aux autres. Il ne s'agit pas encore d'évolution, mais c'est la naissance de l'anatomie comparée et avec elle du concept d'homologie, le mot lui-même ne venant que beaucoup plus tard avec Richard Owen dans les années 30 et 40 du XIXe siècle. Ainsi se trouve instillée dans la pensée occidentale une interrogation qui ne la quittera plus. Quel est le sens, la signification profonde de cette mystérieuse correspondance structurale entre les organismes, quand bien même leurs parties répondent à des fonctions très différentes? Quittons la Renaissance et l'âge classique pour parvenir directement au siècle des Lumières. Cette époque intellectuellement foisonnante est marquée dans les sciences de la vie par l'opposition entre grandes alternatives théoriques telles qu'oviste contre animalculiste et préformation contre épigénèse. Attention à ce terme d'épigénèse qui, au XVIIIe siècle, a un sens complètement différent du terme épigénétique dont Jean-Pierre Changeux nous a parlé et que nous retrouverons cet après-midi. Épigénèse en ce qui concerne, au XVIIIe siècle, la formation des organismes, et plus particulièrement dans le contexte de quelque chose qui va se fabriquer à partir d'une information et non pas d'une structure préexistante. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers linéaments de ce qu'on appellera bien plus tard l'évolutionnisme. Mais à l'époque, le terme d'évolution a un sens tout différent. Il désigne simplement le développement de l'individu dans le contexte de la préformation au sein du germe et plus particulièrement de l'ovule. Plutôt que d'évolution, au XVIIIe siècle, on parle donc de transformisme pour désigner l'émergence de doctrines qui proposent la mutabilité des espèces. On doute encore que Buffon s'y soit plus ou moins discrètement rallié. Face au transformisme naissant, la grande majorité des naturalistes s'en tient à un fixisme de constat pour lequel chaque espèce est créée séparément et fixée depuis l'origine dans ses caractères essentiels. Ce fixisme a évidemment de fortes affinités avec le créationnisme. Pour Linné, édifier une classification naturelle, cela signifie pénétrer les intentions et l'esprit même du créateur. Je ne retiendrai ici qu'une seule contribution au transformisme naissant, celle du grand Maupertuis, jalousé par Voltaire, mais observateur, expérimentateur et théoricien remarquable. Il se convainc du rôle équilibré des gamètes des deux parents dans la formation de la nouvelle génération et de ce que nous appellerions la transmission entre générations d'une information et non pas d'une structure. Il est donc favorable à l'épigénèse au sens que je viens de rappeler. Dans ces conditions, ne pourrait-on pas expliquer comment de deux seuls individus la multiplication des espèces les plus dissemblables aurait pu s'en suivre? Elles n'auraient dû leur première origine qu'à quelques productions fortuites dans lesquelles les parties élémentaires n'auraient pas retenu l'ordre qu'elles tenaient dans les animaux pères et mères. Chaque degré d'erreur aurait fait une nouvelle espèce. Je vous laisse lire la suite de ce texte célèbre qui fonde l'évolutionnisme et que médita Diderot. Disons rapidement qu'à la fin du siècle des Lumières, la société cultivée est déjà familiarisée avec certaines notions essentielles du transformisme. Unité de la matière et du monde vivant, grande durée de l'histoire de la Terre, origine animale de l'homme, variation soit fortuite, soit sous l'influence du milieu, effet de l'usage ou du non-usage des organes, hérédité des caractères acquis, élimination des noms viables, mutabilité des espèces, théorie de ce qu'on appelle alors les analogues qui deviendront les homologies. Il restera à combiner rationnellement ces considérations pour parvenir à un transformisme généralisé. Le pas est franchi en 1800 avec Lamarck. Lamarck, dont on fête cette année le bicentenaire de l'apparition de sa philosophie zoologique, reste généralement considéré, surtout en France, comme le véritable père d'une théorie générale de la réalité de l'évolution du vivant. En fait, comme le montre la recherche historiographique moderne, sa pensée demeure pleine d'ambiguïté, sans doute à cause de son attachement à une chimie de son cru et obsolète, antérieure à celle de Lavoisier. On voit néanmoins chez Lamarck, je commente très très rapidement ici, que la chaîne linéaire qui l'a précédée dans la pensée occidentale se transforme ici en une série rameuse. Il y a le début de cette idée de foisonnement qu'on l'on verra plus tard sur les arbres phylogénétiques. Toutefois, l'ambiguïté vient du fait que Lamarck s'attache à la génération spontanée au début de la vie, mais ici et maintenant. Et donc, comme un perpétuel escalier roulant, de nouvelles formes basales de la vie, par génération spontanée, ne cessent d'apparaître et de grimper en quelque sorte le long de la série rameuse. De là, les ambiguïtés du message de Lamarck. Par ailleurs, ses idées générales sur l'évolution et son mécanisme sont rappelées ici sur le tableau. Je préfère donc dire quelques mots sur l'aîné des Geoffroy, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, car sa notion d'unité de plan porte implicitement en elle celle d'évolution. Toutefois, il est toujours très difficile de discerner dans les transformismes pré-darwiniens si les formules employées réfèrent seulement à une vision abstraite, idéale, en quelque sorte platonicienne de l'homologie, ou bien à une véritable vision historico-réaliste et matérielle de celle-ci, qui sera celle de Darwin. Cette ambiguïté est manifeste chez Geoffroy, tout comme chez bien d'autres transformismes, tout comme encore chez Richard Owen, le Cuvier anglais, à la fois influencé par le fonctionnalisme cuvierien et par l'unité de plan de Geoffroy. Ne quittons pas Geoffroy sans évoquer la célèbre confrontation avec Cuvier devant l'Académie en 1830. Derrière le débat sur l'unité de plan, c'était évidemment la possibilité des transformations évolutives qui était en filigrane. Les deux protagonistes avaient à la fois tort et raison. La main humaine est bien à la fois un organe spécialisé, apte à saisir et à manipuler, comme le voulait le fonctionnalisme cuvierien, mais aussi cet homologue de l'extrémité du membre antérieur de tous les tétrapodes, comme le voulait le structuralisme de Geoffroy. On sait que Cuvier eut techniquement le dernier mot à l'époque, mais, clin d'œil de l'histoire, la génétique moléculaire du développement est venue, 180 ans plus tard, apporter des arguments à l'esprit visionnaire de Geoffroy. Et de fait, les patrons d'expression de certains gènes tendent à montrer que la face dorsale des arthropodes est bien l'homologue de la face ventrale des vertébrés. Puisqu'il a été question de Cuvier, qui pourrait apparaître comme le personnage du vilain ou du traître dans une histoire pour tous de l'évolutionnisme, il faut remettre en perspective l'œuvre de ce très grand savant, dont le tort principal fut d'avoir abusé de sa situation institutionnelle pour brimer et marginaliser des opinions contraires aux siennes. En cela, il est en bonne compagnie. D'un autre côté, l'impulsion décisive que Cuvier sut donner à l'anatomie comparée et à la paléontologie allait, bien plus tard, fournir à l'évolutionnisme des matériaux fondamentaux pour son argumentaire. L'histoire de l'évolutionnisme est ainsi jalonnée de fixistes amis des faits qui, tôt ou tard, rendirent service. Venons-en à Darwin, dont on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance et le 150e anniversaire de la parution de son maître-livre « L'origine des espèces ». L'immense couverture médiatique réalisée cette année à son propos semblerait rendre un petit peu inutile d'insister encore sur son apport décisif à l'évolutionnisme. D'un autre côté, les ambiguïtés persistantes du terme de darwinisme tel qu'employé par les médias incitent à souligner, ne fût-ce que brièvement, l'apport scientifique fondamental de Darwin. À ce propos, et par parenthèse, je ne saurais trop vous conseiller de vous précipiter dans les jardins de la ville de Paris, et notamment à Bagatelle, où Patrick Thore et l'Institut Charles Darwin International ont organisé une remarquable série d'expositions dont vous pourrez profiter jusqu'à la fin de ce mois. Je ferme la parenthèse. Avec l'origine des espèces, précédée en 1858 d'un court essai publié en même temps que le mémoire d'Alfred Russel Wallace, cela pour ne pas perdre le bénéfice de sa priorité intellectuelle, Darwin introduit en 1859 l'évolutionnisme moderne par une série d'innovations intellectuelles portant aussi bien sur la réalité matérielle et non pas idéale de l'évolution que sur son mécanisme concret. Respectant un strict matérialisme méthodologique, il place de ce fait l'étude de l'évolution dans un cadre rigoureusement scientifique. On peut distinguer deux idées fortes dans la pensée darwinienne. Descent with modification, c'est l'affirmation de la réalité matérielle historique de l'évolution. Cet aspect historique de l'évolution, c'est ce que nous appellerons aujourd'hui l'étude des patterns ou patrons évolutifs ou de la phylogénèse, pour reprendre le terme forgé par Haeckel en 1866. Natural selection, c'est la mise en évidence du mécanisme sous-jacent à la descendance avec modification et censé en rendre compte. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'étude des process évolutifs. Il faut souligner que la théorie darwinienne de l'évolution est fondée sur une somme colossale d'observations minutieuses issues de tous les domaines de l'histoire naturelle. Ainsi, sa documentation, méditée et amplifiée pendant la vingtaine d'années séparant son retour de voyage de la publication de l'origine, est-elle d'une ampleur et d'une précision qui dépassent de loin celle de tous ses devanciers. Par ailleurs, Darwin structure sa théorie en prenant pleinement en compte ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui une très grande exigence épistémologique. En effet, il se réfère explicitement au modèle dit newtonien de l'argumentation scientifique tel qu'élaboré par John Herschel et William Whewell dans les années 1830. Dans ce cadre, tel qu'il a été formalisé ici par Jean Gaillon, on voit que la simple hypothèse de la sélection naturelle est librement inférée à partir des données empiriques, en particulier les faits de variation et d'hérédité, la limitation des ressources et les taux de reproduction des organismes, et qu'elle est confortée, cette simple hypothèse, par un modèle expérimental, en quelque sorte, que constitue la sélection artificielle. L'hypothèse, à son tour, va se montrer capable d'expliquer de nombreuses classes d'autres faits indépendants, ce qui constitue un test positif de l'hypothèse et permet sa généralisation au rang de théorie. On constate que l'évolutionnisme darwinien rend désormais simultanément et mutuellement intelligible une multitude de faits et de concepts qui n'étaient pas jusque-là clairement articulés entre eux. Par exemple, les faits d'homologie peuvent s'expliquer par la descendance avec modification à partir d'un ancêtre commun pouvant être situé dans le temps long de la paléontologie. Au-delà de l'origine des espèces, il y a lieu de souligner enfin la richesse extrême du point de vue de l'évolution de l'œuvre darwinienne dans son ensemble. Ah. Alors là, il faut... Rien que dans l'origine, il est possible de trouver de claires prémonitions de ce qu'on appellera bien plus tard l'hypothèse de la reine rouge et même les équilibres ponctués. Comme l'écrivait Kevin Padian il y a quelques années, Darwin doit à son génie propre d'avoir pu autant accomplir et synthétiser. 150 ans plus tard, nous en profitons encore et essayons de comprendre toutes les leçons qu'il avait à nous enseigner. Venons-en à présent à la réception du darwinisme par la communauté scientifique mondiale et à ses conséquences pour l'histoire de l'évolutionnisme. Eh bien, des milliers de pages ont été consacrées à cette question, et je dirais seulement que cette réception s'est faite de façon très différente dans divers pays de vieilles traditions scientifiques. On reviendra sur le cas de la France. De façon générale, au moins une acception du darwinisme conquiert rapidement l'adhésion du monde savant pendant les décades de 1860-80, celle qui concerne la réalité historique de l'évolution, c'est-à-dire la descendance avec modification. Dès lors, le programme de recherche de nombreuses disciplines, telles que l'embryologie et la paléontologie, va être de découvrir les preuves de l'évolution en mettant en avant ce qu'on appellera à l'époque des faits d'évolution, le plus souvent dans le cadre d'une épistémologie scientiste décomplexée. En paléontologie, cette période va donc voir le début de la recherche des chaînons manquants, les fameux « missing links ». Cependant, le processus ou mécanisme évolutif lui-même demeure très débattu. Non seulement la sélection naturelle darwinienne est très discutée, mais son existence même est mise en doute. La sélection est-elle une réalité de la nature ou non? Et si elle est une réalité, son influence en tant que mécanisme évolutif est-elle déterminante ou seulement accessoire? Peut-elle véritablement constituer une cause réelle, matérielle, et même la seule vera causa du changement évolutif? Ces questionnements sur le mécanisme de l'évolution, darwinien ou non, vont occuper les esprits pendant des décennies et faire entrer l'évolutionnisme dans une des phases les plus complexes et pittoresques de son histoire. Un des grands propagandistes du darwinisme sur le continent va être le zoologiste Ernst Haeckel, personnalité hors du commun et qui exerça une forte influence bien au-delà des pays de langue allemande. Je peux dire que quand on visite sa maison, qui est désormais transformée en musée à Iéna, on est accueilli en haut de l'escalier par de gigantesques portraits en pied des plus grands penseurs de l'évolution, Goethe, Lamarck, Darwin et Haeckel lui-même, ce qui donne une idée de la psychologie du personnage, dont on reparlera d'ailleurs cet après-midi. Haeckel offre un bon exemple des ambiguïtés intellectuelles liées à la réception du darwinisme. La doctrine qu'il répand sous ce nom est en effet bien différente de celle de Darwin lui-même, avec une forte insistance sur l'hérédité lamarckienne des caractères acquis et une vision éliminatoire de la sélection qui percolera dangereusement dans un pan-germanisme raciste. Plus intéressantes du point de vue de l'évolutionnisme seront les trouvailles, comme les termes d'écologie et de phylogénèse, qui feront fortune, et sa réflexion sur les rapports entre ontogénie et phylogénie, qui, malgré ses excès simplificateurs, avec quelquefois des tentatives d'enjolivement d'une certaine réalité embryologique, aura une importante postérité en proposant un véritable programme de recherche pour l'embryologie comparative. Les dernières décennies du XIXe siècle sont dominées par un débat de fond entre le darwinisme et différentes alternatives au darwinisme. Il faut bien comprendre que ces dernières ne remettent pas en cause la réalité de l'évolution en tant que fait historique, mais bien le mécanisme darwinien de la sélection naturelle et aussi l'hypothèse darwinienne sur l'hérédité. On reviendra sur ce point. Certes, le fixisme se prolonge plus que de raison dans certains pays et dans certains milieux, notamment en France, en général pour des raisons sociologiques, idéologiques et religieuses, bien plus que scientifiques. Au sein de la science elle-même, le débat porte donc pour l'essentiel sur les mécanismes de l'évolution. Pour beaucoup, l'existence de la sélection naturelle in natura n'est pas démontrée, et ce mécanisme, de toute façon, paraît incapable de rendre compte de l'existence des vastes lignées d'organismes constituant des séries ordonnées dans le temps, telles que révélées à l'époque par la paléontologie. Ainsi, l'école néo-lamarckienne américaine, avec Cope et Hyatt, développe ces points de vue. Il développe aussi, Cope, la loi d'accroissement de taille, qui exprimerait une tendance générale et inéluctable propre aux lignées, tendance liée à des facteurs internes indépendants de la sélection naturelle imposée par l'environnement. Un exemple en est l'étude par Osborne sur les titanotères du tertiaire américain. Il est d'ailleurs intéressant, soit dit en passant, de noter que la fin du XIXe siècle voit se multiplier des lois de l'évolution. Loi de Cope, déjà citée, loi de Williston, de spécialisation croissante des parties sériellement homologues, loi d'irréversibilité de Dolo, etc. Pour les savants de l'époque, en effet, il n'est de science que de loi. Le modèle prestigieux étant alors dicté par la physique classique déterministe. On était là, en fait, aux antipodes de Darwin, qui avait subrepticement introduit dans la science avec la notion de variation aléatoire, triée ensuite par la sélection, une dimension de la contingence pour ainsi dire incompréhensible à l'époque par une certaine orthodoxie scientifique. De 1888 à 1897, les publications d'Eimer popularisent le concept d'orthogénèse ou évolution en ligne droite. Tout se passe comme si les lignées voyaient leur évolution canalisée par de puissantes contraintes morphogénétiques internes commandant leur destinée évolutive, tout cela indépendamment de la sélection. Le processus aboutit naturellement à ce qu'on appelle à l'époque les hypertélies, où l'évolution dépasse son but fonctionnel, produisant des structures hyperspécialisées ou monstrueuses, vouant les lignées à l'extinction. Évidemment, la paléontologie de la synthèse évolutive a proposé des explications beaucoup plus satisfaisantes de ce qui était considéré comme des hypertélies à la fin du XIXe siècle. Une autre acception du néo-lamarckisme est représentée par ce que l'on pourrait appeler l'establishment universitaire de la Troisième République, qui, bien que non constitué en une école homogène, va dominer la scène en France pendant plusieurs décennies. Pour ces biologistes, Darwin avait raison en pointant le milieu comme facteur principal contrôlant l'évolution, mais le mécanisme de la sélection naturelle leur apparaissait comme un détour inutile entre celui-ci et la transformation évolutive, puisqu'ils acceptaient pleinement l'hérédité lamarckienne des caractères acquis. Ils comprenaient donc les milieux comme un ensemble de facteurs et de forces matérielles agissant directement sur le vivant, et l'évolution s'exerçait donc directement au niveau des organismes individuels et non pas des populations. Ces chercheurs, dont les plus célèbres sont Alfred Giard, premier titulaire de la chaire d'évolution des êtres organisés fondée par la ville de Paris, Yves Delage, Edmond Perrier et Gaston Bonnier, ont initié des programmes de transformisme expérimental où ils tentaient de mettre en évidence l'influence modificatrice directe du milieu sur les organismes. Il y a un problème là. Voilà. Voilà l'équipe de Gaston Bonnier, par exemple, dans la petite station biologique de Fontainebleau-Avon, qui est toujours, à ma connaissance, en fonctionnement pour l'enseignement de l'écologie aux étudiants dans le cadre de l'Université Paris 7. Et tous ces braves gens transplantaient des plantes de montagne en plaine et réciproquement, constataient des modifications considérables de la morphologie et même de l'histologie des tissus et pensaient qu'ils faisaient ainsi de l'évolution. En fait, ils ne faisaient que mettre en évidence la possibilité de variation par sommation, c'est-à-dire la fluctuation écophénotypique propre à tous les organismes. À ce stade de notre histoire, il faut faire intervenir dans le débat un autre courant de pensée, celui qui va se donner pour objet la compréhension de la transmission d'hérédité. Darwin, sur ce point, avait proposé, faute de mieux, son hypothèse de la pangénèse en 1868, qui avait suscité maintes contestations, y compris parmi ses proches comme Francis Galton. Eh bien, à partir des années 1870, les progrès de la microscopie vont susciter un développement considérable de l'histologie et de la cytologie optique, qui vont ouvrir, de concert avec l'embryologie expérimentale, un champ entièrement nouveau à la compréhension de la biologie générale et bientôt à celle de la transmission héréditaire. En deux décennies, des percées fondamentales concernant la compréhension de la vie cellulaire et du cycle de reproduction des organismes sont réalisées. La fécondation, comme fusion de deux gamètes, est comprise par Oscar Hertwig en 1875. En 1879, Edouard Strasburger décrit la division cellulaire normale, la mitose. La formation des gamètes par méiose, soit deux divisions successives dont une réductionnelle, est décryptée par Van Beneden en 1883 et précisée par Boveri en 1886-87. Enfin, Wilhelm Waldeyer donne en 1888 le nom de chromosome aux structures nucléaires figurées dont on suit désormais le cycle complet au fil de l'alternance des générations gamétiques et somatiques. Remarquons en passant la faible présence, voire la quasi-inexistence, de la science française dans cette cascade de découvertes. Ces avancées observationnelles et expérimentales sont complétées par des puissants efforts de synthèse théorique. À partir d'un courant de recherche sur le plasma germinal suscité par la General Morphology de Haeckel en 1866, les travaux de biologie cellulaire conduisent à progressivement déterminer la nature du substrat héréditaire. August Weismann propose la distinction entre lignée somatique et lignée germinale et va en déduire l'impossibilité de la transmission des caractères acquis. L'hypothèse que les chromosomes constituent les porteurs matériels de l'hérédité se fait jour. Weismann, de 1883 à 1892, puis un peu plus tard Hugo de Vries, propose des théories de l'hérédité prenant en compte tous les acquis de la cytologie. Le matériel héréditaire est de nature particulière, De Vries l'appelle des pangènes, portés par les chromosomes et transmis par les gamètes des deux parents, et il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. Ces considérations développées par Weismann ont pour conséquence de modifier le darwinisme de Darwin. Si l'organisme ne peut transmettre les modifications somatiques adaptatives imposées par le milieu, de tels caractères acquis ne peuvent constituer un mécanisme de l'évolution. En conséquence, il ne reste que la sélection naturelle comme agent matériel susceptible de réaliser un tri au sein de la variabilité spontanée. Ainsi va se constituer à partir de Weismann le néo-darwinisme qui élimine toute possibilité de transmission des caractères acquis et confère désormais à la sélection naturelle un rôle exclusif comme moteur de la transformation évolutive. Cette vision de l'évolution et de son mécanisme était évidemment incompatible avec celle des néo-lamarckiens, fondée sur l'hérédité de l'acquis, et il devenait dès lors impossible de combiner à son gré des doses de lamarckisme et de darwinisme, comme l'avait fait d'ailleurs Darwin lui-même en son temps. La situation se radicalisait, mais on n'avait encore rien vu. En effet, Hugo de Vries fait entre 1886 et 1890 une série d'observations cruciales sur les notaires en découvrant l'apparition brutale de variants dont les graines donnaient naissance aux mêmes variants. Il donna à ce phénomène le nom de mutation et postula que c'était par un phénomène de ce type que prennent naissance les espèces nouvelles. Ainsi, contrairement à Darwin qui avait prôné que la sélection naturelle s'exerçait sur de minimes variations quasiment continues en réalisant une adaptation progressive, on se trouvait là en présence de transformations héréditaires instantanées, brutales, discontinues, de grande ampleur morphologique et sans lien avec une adaptation à l'environnement. Ainsi, De Vries va développer en 1901 une explication alternative de l'évolution, le mutationnisme, postulant que les nouveautés évolutives surgissent au hasard, sans rapport avec l'adaptation, contrairement au point de vue défendu aussi bien par les néo-lamarckiens que par les néo-darwiniens. C'est dans ce contexte général que, en 1900, De Vries, Correns et Tschermak redécouvrent simultanément les lois de Mendel que ce dernier avait publiées en 1866. Cela confirme de façon éclatante le caractère particulier de la transmission héréditaire niée par les néo-lamarckiens. En effet, les facteurs dont Mendel avait prédit l'existence et qu'il avait admis comme des êtres de raison pour expliquer les résultats de ces croisements sont indépendants et ne se mélangent pas. Rappelez-vous les lois de Mendel. L'importance des lois de Mendel pour la compréhension du vivant et de son évolution est clairement perçue par William Bateson dès 1900. William Bateson, un des pères de la génétique, va forger une série de termes importants comme ceux d'allèle, d'homozygote et d'hétérozygote. Avec Queneau en France, il montre que les lois de Mendel s'appliquent aux animaux. Dès 1894, il découvre et définit l'homéose. Voilà ce qu'écrit Bateson à propos de l'importance de la redécouverte des lois de Mendel. Et donc, ce savant découvre et décrit l'homéose, qui est un phénomène extrêmement curieux et intéressant, qui va être mis en évidence chez un grand nombre d'insectes, et où un organe, ici une patte, bien reconnaissable en tant que tel, va néanmoins en venir à être adressé à une partie du corps où normalement elle ne se développe pas, ici à la partie du corps qui normalement porte une antenne. Eh bien, tout cela aura un retentissement fondamental dans le développement de l'évo-dévo moderne bien plus tard. Eh bien, dès les années 1900, Bateson place l'homéose en contexte évolutionniste en réfutant, comme de Vries, le gradualisme de Darwin en faveur de processus discontinus dans l'origine des espèces. Et dès 1902, il démontre que la théorie darwinienne pouvait fort bien s'accorder avec des mini-variations discontinues produites par des mutations. On voit dès lors que la génétique mendélienne naissante va pouvoir s'accorder avec le néo-darwinisme. La théorie chromosomique de l'hérédité va découler. La théorie chromosomique de l'hérédité va découler en quelques années de la redécouverte des lois de Mendel, confronté aux travaux cytologiques de Boveri sur l'ascaris et l'oursin, de Sutton en 1903 sur la sauterelle et de Nettie Stevens en 1904-1905, qui découvre les chromosomes sexuels chez le ver de farine. Elle sera étendue et précisée par l'école de Morgan sur la drosophile. En attendant, la théorie de l'évolution reste écartelée entre des visions opposées des mécanismes possibles. Comment se sortir de ces contradictions? La décade 1890-1920 sera donc marquée par la concurrence acharnée entre des visions très opposées des mécanismes évolutifs. Pourtant, à partir de 1900, la conceptualisation progressive de l'hérédité particulière, l'inexistence de l'hérédité de l'acquis, la redécouverte des lois de Mendel et l'avènement de la théorie chromosomique de l'hérédité jalonnent la montée en puissance du néo-darwinisme. La combinaison de celui-ci avec la génétique des populations va conduire à la théorie synthétique de l'évolution dans ses aspects classiques de 1940 à 1970. Ici s'achève mon exposé, puisque j'ai consommé mon temps. Je n'ai pas parcouru ni les 2500 ans, ni les années plus récentes, et il me resterait encore une heure et demie d'exposé pour arriver aux alentours de 2009. Donc, je m'arrête là.